Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre étude assez délicate concernant est-ce que Jésus est mort uniquement par les Romains et les Juifs? C'est une question sérieuse qui mérite d'être étudiée donc à fond. Nous sommes au CD numéro 7 et là nous arrivons à la 26e raison. La 26e raison pourquoi Jésus devait mourir. Jésus doit mourir pour mettre fin au sacerdoce de l'Ancien Testament et devenir le souverain sacrificateur éternel. Notez tout d'abord Hébreux, chapitre 7, versets 23 à 27. Là, il est dit, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il, Jésus-Christ, n'a pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Hébreux, chapitre 7, versets 23 à 27. Notez maintenant Hébreux, chapitre 9, versets 24 à 26. Il est dit que Christ est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu son Père. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Mais maintenant, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Hébreux, chapitre 9, verset 26, verset 24 à 26. Et encore, s'il vous plaît, Hébreux, chapitre 10, verset 11 et 12, où il est dit, « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Lui, Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu son Père. » J'ai dit Hébreux chapitre 10, versets 11 et 12. Mes chers amis, l'une des expressions les plus fortes de la vérité chrétienne, c'est une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Elle dérive d'un mot grec, ephapax, qui souligne le caractère unique de l'œuvre. Elle indique que ce qui s'est produit est décisif. L'action accomplie est telle qu'elle n'a plus jamais besoin d'être répétée. Oui, on peut bien dire une fois pour toutes, car toute tentative de la renouveler discrédite ce qui a été opéré une fois pour toutes. Quelle sombre perspective que celle des sacrificateurs israélites qui, année après année, devaient offrir des animaux pour leurs propres péchés et pour ceux du peuple. Je ne dis pas qu'ils ne leur procuraient pas de pardon. Dieu les avait institués pour le soulagement de son peuple. Les enfants d'Israël commettaient des péchés, comme nous, et avaient besoin d'une victime expiatoire pour subir leur châtiment. C'était donc par pure grâce que Dieu acceptait le ministère de sacrificateur, pécheur et la substitution d'animaux. Mais voyez-vous, cette insuffisance sacerdotale, elle devait aboutir à quelque chose de bon. Si Dieu honorait ce service imparfait, cela voulait dire qu'un jour, il enverrait un serviteur capable d'accomplir ce que les sacrificateurs ne pouvaient pas, à savoir ôter les péchés une fois pour toutes, pour toujours. Or Jésus-Christ, il est, lui, ce sacrificateur. Il est devenu le sacrificateur et le sacrifice ultime, indemne de péché, car il n'en avait point. Il n'avait pas à offrir des sacrifices pour lui-même. Immortel, il n'avait pas besoin d'être remplacé. Homme, il pouvait porter sur lui les péchés des hommes. Il ne présenta donc pas de sacrifice pour lui-même, mais il s'offrit lui-même en sacrifice définitif. Aucun autre sacrifice ne sera plus jamais nécessaire. Il y a donc un seul médiateur entre Dieu et les hommes, il y a un seul sacrificateur, il ne nous en faut pas d'autre. Quel bonheur, chers amis, pour ceux qui s'approchent de Dieu le Père par Jésus seul. Oui, nul autre, ni Mohammed, ni Bouddha, ni quelque pape qui ce soit, personne d'autre est le médiateur que Jésus-Christ. La 27e raison pourquoi Jésus devait mourir, Jésus doit mourir pour devenir un sacrificateur compatissant et capable de nous secourir. S'il vous plaît, écoutez attentivement ceci. Car, il est dit, nous n'avons pas un sacrificateur souverain qui ne puisse compatir à nos faiblesses, bien au contraire. Il a été tenté comme nous en toutes choses, et cela sans commettre aucun péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Hébreux, chapitre 4, versets 15 et 16. Je prends parfois les citations dans mes versions bibliques allemandes. Donc, Jésus-Christ est devenu notre sacrificateur en s'offrant lui-même, on l'a compris, en sacrifice sur la croix, selon Hébreux chapitre 9, verset 26. Jésus-Christ est donc notre intermédiaire et nul autre auprès de Dieu. Son obéissance et ses souffrances ont été si parfaites que Dieu le Père ne le repousse pas. Et c'est pourquoi si nous nous approchons de Dieu le Père, par lui, par Jésus, eh bien Dieu ne nous repoussera pas non plus. Mais il y a beaucoup mieux. Pendant les 30 années qui l'ont mené à la croix, Jésus-Christ a été tenté comme n'importe quel être humain. Certes, il n'a jamais commis de péché. Alors des sages en ont déduit que ces tentations étaient plus fortes que les nôtres et non pas moins fortes. Celui qui cède à la première tentation n'en connaîtra jamais les assauts les plus puissants et les plus durables. Nous capitulons alors que la pression ne fait que monter, mais Jésus, lui, ne capitule jamais. Il a connu la pleine pression jusqu'au bout sans jamais céder. Il sait donc ce que représente la pleine force de la tentation. Une vie de tentation qui culmine dans les abus ignobles et dans l'abandon, cela confère à Jésus une capacité sans pareille à sympathiser avec tous ceux qui sont tentés et qui souffrent. Personne n'a jamais souffert plus que lui. Personne n'a jamais connu autant d'abus contre sa personne. Et personne autant que lui ne méritait d'en être épargné ou n'aurait eu le droit de s'insurger contre ce traitement. L'apôtre Pierre, il déclare « Il, Jésus, n'a point commis de péché et dans sa bouche il ne s'est point trouvé de fraude ni d'injure. Il ne rendait point d'injure. Il ne maltraitait et il ne faisait point de menace à personne. Mais il s'en remettait uniquement à celui qui juge justement. » Premier épître de Pierre, chapitre 2, versets 22 et 23. C'est pourquoi la Sainte Bible affirme qu'il peut compatir à nos faiblesses, selon Hébreux chapitre 4, verset 15. Cela paraît stupéfiant. Oui, le Fils de Dieu ressuscité, qui est assis dans les lieux célestes, à la droite de la majesté divine, son Père bien-aimé, détenteur de tout pouvoir dans l'univers, il sait ce que nous ressentons quand nous nous approchons de lui, accablé par le chagrin ou par la peine, ou peut-être m'émaculé par les promesses de plaisir coupable. À quoi cela nous sert-il? La Sainte Bible répond en établissant un lien entre la sympathie de Jésus et notre assurance dans la prière. Puisqu'il est capable de compatir à nos faiblesses, il est dit dans Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16, « Approchons-nous donc, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Voici donc la logique du raisonnement. Il est probable que nous ne nous sentions pas à l'aise en nous approchant de Dieu avec nos luttes, car nous sommes tellement conscients de la pureté et de la perfection de Dieu que tout en nous paraît inconvenant en sa présence. Rappelons-nous alors que Jésus est compatissant. Il sympathise avec nous. Il ne se dresse pas contre nous. Et cette prise de conscience de la compassion de Jésus, cela nous enhardit à nous approcher de Dieu notre Père. Il connaît nos larmes. Il a goûté à notre combat et il nous invite à venir à lui avec assurance quand nous avons des besoins. Alléluia. La 28e raison pourquoi Jésus devait mourir. Jésus doit mourir pour nous libérer de la vie futile de nos ancêtres. La Bible dit, dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19, « Ce n'est pas par des choses périssables, telles que l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans aucune tache. L'homme moderne, très sophistiqué, et prenons l'animiste, le plus primitif au monde, eh bien, ils ont une chose en commun, écoutez bien. Tous les deux croient au pouvoir de l'asservissement ancestral. Ils lui donnent des noms totalement différents, évidemment. L'animiste, il parle en termes d'esprit des ancêtres et de transmission de la malédiction telle que les chamans. Or, le matérialiste de notre temps moderne, il évoque l'influence génétique ou les traumatismes causés peut-être par des parents abusifs, codépendants ou distants sur le plan émotionnel. Et dans les deux cas, il y a une certaine fatalité qui condamne l'homme, qui le condamne à vivre sous la malédiction ou avec les blessures provoquées par le passé. Ainsi, l'avenir semble futile et vide de bonheur. Quand la Sainte Bible parle de la vaine manière de vivre qui est héritée de nos pères, eh bien, elle fait allusion à une façon de vivre vide, totalement vide, sans aucun but, ni sans intérêt, qui se termine, croyez-moi, dans la destruction. Alors elle la rattache à nos pères, mais sans préciser comment. Or elle estime infiniment plus important de dire comment s'en affranchir. La puissance qui est mise en jeu par le libérateur donne une idée de l'étendue de la libération. La libération de cet avertissement ou de cet asservissement, c'est surtout ça, l'asservissement, eh bien, cette libération ne s'opère pas par des choses périssables, telles que l'argent ou de l'or. L'argent et l'or désignent les choses les plus précieuses qu'on puisse donner en échange de notre libération. Et nous savons tous qu'elles n'en ont pas le pouvoir absolu. Les gens les plus riches sont souvent les plus asservis à la vanité. Par exemple, un riche chef de quelque part, il peut être tourmenté à la pensée d'un sort ancestral qui aurait pu être jeté sur sa vie. Quant au PDG moderne d'une entreprise florissante, il peut être victime de forces inconscientes qui remontent à son enfance et qui peuvent détruire son mariage et qui peuvent même nuire à ses enfants. Donc, l'argent et l'or sont donc impuissants pour nous aider. Il y a seulement les souffrances et la mort de Jésus qui peut fournir le nécessaire. Rappelez-vous, ni argent ni or, mais seul le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans aucune tache. Quand Jésus est mort, Dieu le Père, il avait en vue la destruction du lien entre nos pères et nous. Il voulait nous racheter de la vaine manière, de cette manière vaine de vivre que nous avons héritée d'eux. C'est l'une des grandes raisons de la mort de Jésus. Aucun sort ne peut vous être jeté si toutefois vos péchés sont tous pardonnés et si vous êtes revêtus de la justice de Jésus et si vous êtes rachetés et si vous êtes aimés par le Créateur de l'univers. Les souffrances et la mort de Jésus expliquent pourquoi la Sainte Bible, elle peut déclarer au sujet du peuple de Dieu ceci, que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Ça se trouve dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 23, dans l'Ancien Testament. Par sa mort, Jésus a acquis tous les trésors du ciel pour tous ceux qui se confient en lui. Et personne, absolument personne, ne peut maudire celui que Dieu bénit. Rappelez-vous cela. Personne ne peut vous maudire si Dieu le Père vous a béni. Aucune blessure qui est infligée par un parent n'échappe au pouvoir de guérison de Jésus. Le remède qui guérit n'est autre que le sang précieux de Jésus-Christ. L'adjectif précieux souligne la valeur infinie. C'est pourquoi la rançon libère infiniment. Aucun asservissement ne peut lui résister. La 29e raison pourquoi Jésus devait mourir, eh bien Jésus doit mourir pour nous affranchir de l'esclavage du péché. Alléluia. Il est dit dans le dernier livre de la Bible, dit Offenbarung, Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6, à celui Jésus-Christ qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang précieux et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit donc la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. Et notez maintenant Hébreux, chapitre 13, verset 12, où il est dit que c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Mes chers amis, notre péché, mon péché, ton péché, il nous ruine de deux façons. Il nous rend coupables devant Dieu le Père, si bien que nous sommes sous sa juste condamnation, et il enlaidit notre comportement, si bien que nous défigurons ainsi l'image de Dieu notre Père, que nous sommes censés de refléter. Le péché nous écrase sous le poids de la culpabilité et nous condamne à la laideur. Or le sang de Jésus, oh, alléluia, le sang de Jésus libère de ces deux maux, car il satisfait la justice de Dieu le Père, si bien qu'il peut fort légalement pardonner nos péchés, et il triomphe du pouvoir du péché qui nous prive d'amour. nous avons vu comment Jésus-Christ a détourné sur lui la colère de Dieu et qu'il a ôté notre culpabilité. Mais comment ce sang peut-il nous affranchir de l'esclavage du péché? La réponse ne réside pas dans l'exemple suprême que Jésus nous propose d'imiter pour nous libérer de notre égoïsme. Certes, Jésus est un exemple pour nous et un exemple éloquent. Il nous a d'ailleurs donné l'ordre de l'imiter. Voyez-vous, Jésus dit « Je vous donne un commandement tout nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous. Aimez-vous les uns les autres. » Jean 13, verset 34. Mais l'appel à l'imitation n'est pas le pouvoir de libération. Il faut quelque chose de beaucoup plus profond, car le péché, il exerce une influence tellement puissante dans notre vie qu'il faut rien moins que la puissance de Dieu pour nous en affranchir. Notre force de volonté en est incapable. Or, comme nous sommes des pécheurs, il est donc normal que nous interrogeons la puissance de Dieu, notre Père. Elle intervient pour nous libérer et pour nous condamner, exactement pour tous ceux qui continuent de commettre des péchés sans demander pardon. C'est donc là que interviennent les souffrances de Jésus. Quand il est mort pour ôter, vous l'avez compris, la condamnation qui pesait sur nous, sur toi et sur moi, il a en quelque sorte ouvert les vannes de la puissante miséricorde divine pour qu'elle opère notre libération de la puissance du péché. Autrement dit, il fallait que nous soyons sauvés de la culpabilité du péché, de la colère de Dieu, avant d'être délivrés de la puissance du péché par la miséricorde divine. La Sainte Bible, elle utilise deux mots clés très importants pour exprimer cette vérité de façon très claire et très précise. Elle dit que la justification précède et qu'elle garantit la sanctification. Je répète, la justification précède et garantit la sanctification. Non coupable. Ce sont donc deux œuvres totalement différentes. Écoutez bien, l'une est tout simplement une déclaration instantanée, c'est-à-dire non coupable, et l'autre, c'est une transformation qui est continuelle. Alors, pour ceux qui se confient en Jésus, la puissance de Dieu, elle ne sert plus désormais au service de sa colère qui nous condamne, mais sa miséricorde qui libère maintenant. Dieu le Père nous accorde donc cette puissance de changement uniquement par la personne de son Saint-Esprit. Et c'est pourquoi l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi sont présentés comme étant les facettes du magnifique fruit de l'Esprit Saint. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. La Sainte Bible peut donc nous laisser une merveilleuse promesse qui dit que le péché n'aura point de pouvoir sur vous, sur toi, puisque vous êtes, puisque tu es, maintenant non pas sous la loi, mais sous la grâce. Romains chapitre 6, verset 14. Le fait d'être sous la grâce, cela met à notre disposition la toute-puissance de Dieu pour détruire notre laideur, non pas d'un seul coup en claquant des doigts, mais peu à peu. Nous ne sommes pas passifs dans la défaite de notre égoïsme, mais nous ne détenons pas non plus le pouvoir décisif. C'est uniquement par la grâce de Dieu notre Père. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, il a pu déclarer « J'ai travaillé beaucoup plus que eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » 1 Corinthiens 15, verset 10. Puisse donc, mes chers amis, le Dieu de toute grâce nous libérer par la foi en Jésus-Christ de la culpabilité de l'esclavage du péché. Et la troisième, non, excusez-moi, vous l'avez compris, et la 30e, 30, la 30e raison pourquoi Jésus devait mourir. Jésus doit mourir pour nous faire mourir au péché et pour vivre pour la justice. Notez la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Il, Jésus, a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous puissions vivre pour la justice. Aussi étrange que cela puisse paraître, la mort de Jésus à notre place et pour nos péchés, cela signifie que nous sommes maintenant morts. Nous aurions pu penser que la mort d'un substitut à notre place, que cela nous permettrait d'échapper à la mort. Effectivement, nous échappons, c'est-à-dire à la mort éternelle et d'une misère et d'une séparation sans fin d'avec Dieu. Et Jésus dit, il dit, je leur donne à ces brebis que nous sommes, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront plus jamais. Saint Jean, chapitre 10, verset 28. Donc, quiconque vit et croit en moi, en Jésus, ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Saint Jean, chapitre 11, verset 26. Jésus est effectivement mort afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Mais il est un autre sens qui veut que nous mourions, que nous puissions mourir précisément parce que Jésus-Christ est mort à notre place, à ta place, à ma place, ainsi que pour nos péchés. Il, Jésus, a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous puissions vivre, oui, que nous puissions vivre éternellement avec lui. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Donc, Jésus est mort pour que nous puissions vivre, mais il est aussi mort pour que nous allons mourir maintenant avec lui. Car quand Christ Jésus est mort, eh bien moi et toi, chrétien véritable, nous sommes morts tous les deux avec lui. La Sainte Bible le dit très clairement, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Romains chapitre 6, verset 5. Un seul est donc mort pour tous, et tous donc sont morts. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. La foi, elle prouve que nous avons été unis à Jésus de cette manière très intime. Les croyants que nous sommes ont été crucifiés avec Jésus. Galates chapitre 2 verset 20. Ils sont donc morts avec lui. Nous sommes morts avec Jésus. Nous contemplons cette mort et nous savons que dans la pensée de Dieu notre Père, nous étions présents. Il a porté nos péchés et il a enduré la mort que nous méritions, que je méritais. Et comment ? Le baptême exprime cette mort avec Jésus. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Romains chapitre 6 verset 4. L'eau représente la tombe. L'immersion, c'est une image de la mort. La sortie de l'eau, elle illustre la vie toute nouvelle. Et tout cela montre ce que Dieu, notre Père, fait par la foi. Vous avez été enseveli, est-il dit, avec lui par le baptême. Et vous êtes aussi maintenant ressuscité en lui et avec lui, oui, par la foi en la puissance de Dieu. Colossiens chapitre 2 verset 12. Ma mort avec Jésus, elle est directement liée à sa mort pour mon péché. Oui, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous puissions vivre. Par conséquent, lorsque j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, eh bien j'accepte aussi ma propre mort en tant que pécheur. Mon péché a plongé Jésus dans la tombe, et moi avec. La foi juge le péché comme étant meurtrier. Il a du reste tué Jésus, et il m'a et il t'a tué avec. Et c'est pourquoi la conversion véritable à Jésus, cela équivaut à la mort au péché, je répète. C'est pourquoi la conversion, le salut, acceptée par Jésus-Christ, cela équivaut à la mort, à ton et à mon péché. La vieille nature, la nature de Adam, qui aimait le péché et comment ? Elle est maintenant morte. Souviens-toi, morte. Elle est morte, cette vieille nature. Elle est morte avec Jésus. Le péché ressemble à une très belle prostituée de la Reeperbahn de Hambourg qui a perdu pourtant toute sa beauté. Elle a fait mourir mon roi et moi par la même occasion. Le croyant véritable est donc mort maintenant au péché. Alléluia. Il n'est plus sous le charme de ses attraits, de la beauté fanée à la Reeperbahn de Hambourg. Le péché qui a tué mon ami n'exerce plus d'attirance ni sur moi, ni sur lui. Il est devenu mon ennemi maintenant. Ma vie toute nouvelle, elle est désormais marqué par la justice. Il, Jésus, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, et ceci afin que nous vivions pour la justice. 1er Épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Mon âme, elle est maintenant attirée par la beauté de Jésus, lui qui m'a aimé et lui qui s'est livré lui-même pour moi ainsi que pour toi. Sa beauté n'est autre que sa parfaite justice. Le commandement auquel j'aime désormais obéir, eh bien ce commandement est celui-ci, écoutez bien. Donnez-vous tous, vous-même, à Dieu notre Père, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu votre Père vos membres comme des instruments de justice, selon Romains, chapitre 6, verset 13. Je vous invite, mes très chers amis, à y trouver également tout votre bonheur. Et maintenant, j'aimerais, si c'est possible, vous transmettre quelque chose que le Seigneur m'a donné pour votre propre enseignement, mais aussi pour votre édification personnelle. Écoutez bien cela. La grâce porte à se mortifier soi-même, résiste à la sensualité, rejette l'assujettissement, aspire à être vaincu et ne veut pas jouir de sa liberté. Elle aime la dépendance, elle ne désire dominer personne, être toujours sous la main de Dieu, et à cause de Dieu, elle est prête à s'abaisser humblement au-dessous de toute créature. La nature, elle travaille pour son propre intérêt, et elle calcule le gain qu'elle peut retirer des autres. Or la grâce, elle ne considère point ce qui lui est avantageux, mais ce qui peut être utile à plusieurs. La nature aime à recevoir les respects et les honneurs. Or la grâce renvoie fidèlement à Dieu tout honneur et toute gloire. La nature craint la confusion et le mépris. Or la grâce se réjouit de souffrir des outrages pour le saint nom de Jésus. La nature aime l'oisiveté et le repos du corps. Oh oui! Or la grâce, elle ne peut être oisive. Et la grâce se fait une joie de tout travail. La nature cherche les choses curieuses et belles et repousse avec horreur ce qui est vil et grossier. Or la grâce, elle se complaît dans les choses simples et humbles. Elle ne dédaigne point ce qu'il y a de plus rude et elle ne refuse point de se vêtir de haillons. La nature convoite les biens du temps. Elle se réjouit d'un gain terrestre, s'afflige d'une perte et s'irrite d'un léger ou d'une légère injure. Or la grâce, elle n'aspire qu'au bien éternel et elle ne s'attache point à ceux du temps. Elle ne se trouble d'aucune perte et ne s'offense point des paroles les plus dures parce qu'elle a mis son trésor et toute sa joie dans le ciel où rien ne périt. La nature est avide et reçoit plus volontiers qu'elle ne donne. Elle aime ce qui lui est propre et particulier. Or la grâce, elle est généreuse et ne se réserve rien. Elle évite la singularité. Elle se contente de peu et croit qu'il est plus heureux de donner que de recevoir. La nature se porte vers les créatures, vers la chair, vers la vanité et les biens aisés de se produire. Or la grâce élève à Dieu, excite à la vertu, renonce aux créatures et fuit le monde, haït les désirs de la chair et se répand point au dehors et rougit de paraître devant les hommes. La nature se réjouit d'avoir quelque consolation extérieure qui surtout flatte le penchant des sens. Or la grâce, elle ne cherche de consolation que en Dieu seul et s'élève au-dessus des voies visibles. Elle met toutes ses délices dans le souverain bien. La nature agit en tout uniquement pour le gain et pour son avantage propre. Elle ne sait rien faire gratuitement, bénévolement, mais en obligeant, elle espère obtenir quelque chose d'égal ou de surtout de meilleur, des faveurs ou des louanges, et elle veut qu'on tienne pour beaucoup tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle a donné. Or la grâce ne veut rien de temporel. Elle ne demande d'autres récompenses que Dieu seul. Et elle ne désire des choses du temps, même les plus nécessaires, que ce qui peut lui servir pour acquérir les biens éternels. La nature se complaît dans le grand nombre des amis et des parents. Elle se glorifie du rang élevé d'une naissance illustre. Elle sourit aux puissants, elle flatte les riches et elle applaudit à tous ceux qui lui ressemblent. Or la grâce, elle aime ses ennemis même et ne s'enorgueillit point du nombre de ses amis. Elle ne compte pour rien la noblesse et les ancêtres, à moins qu'ils ne se soient distingués uniquement par la vertu, et elle favorise plutôt le pauvre que le riche. Elle compatit plus à l'innocent qu'au puissant. Elle recherche l'homme vrai, elle fuit le menteur et ne cesse d'exhorter les bons à s'efforcer de devenir meilleurs, afin de se rendre semblables au Fils de Dieu par leur vertu. La nature, elle est prompte à se plaindre de ce qui lui manque et de ce qui la blesse. Or la grâce, elle supporte avec constance la pauvreté. La nature rapporte tout à elle-même. Elle combat et discute uniquement pour ses intérêts. Or la grâce, elle ramène tout à Dieu le Père, de qui tout émane originairement. Elle ne s'attribue aucun bien, ne présume point d'elle-même avec arrogance, ne conteste point, ne préfère point son opinion à elle des autres, mais elle soumet toutes ses pensées et tous ses sentiments à l'éternelle sagesse et au jugement de Dieu le Père. La grâce, elle ne veut point qu'on loue, ni elle, ni ses œuvres, mais elle désire que Dieu soit béni, béni dans les dons qu'il répond par pur amour. Cette grâce est une lumière surnaturelle, elle est un don spécial de Dieu. C'est proprement le sceau des élus, oh oui, c'est le gage du salut éternel. De la terre où son cœur gisait, elle élève l'homme jusqu'à l'amour des biens célestes et le rend spirituel de charnel qu'il était. Plus donc la nature est affaiblie et vaincue, plus la grâce se répand avec abondance et chaque jour, par de nouvelles effusions, elle rétablit au-dedans de l'homme l'image de Dieu notre Père. Amen. Et maintenant, prions ensemble. Prions. Il est dit que Jésus lui avait dit à une certaine femme, crois-moi, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Père. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oh oui, Dieu notre Père, ouvre nos yeux, Seigneur, aux larges visions des champs de la terre qui blanchissent pour la moisson. Ouvre nos oreilles à l'appel des multitudes qui sont sans espérance. Ouvre nos cœurs au grand message de la map-monde, le site de ton royaume. Oui, la terre qui a bu le sang de ton Fils bien-aimé et qui tressaillera d'allégresse un jour bientôt Oh oui, sous son pas victorieux. Ouvre donc nos âmes aux inspirations de ton Saint-Esprit qui souffle où il veut des quatre vents et vers les extrémités du monde. Amen. Et rappelez-vous que Dieu aime tous ceux qui ont eu le courage un jour de reconnaître qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin d'être pardonnés, qui ont accepté la main tendue de Jésus et qui maintenant sont sauvés. Alors Dieu vous aime et il est de mon devoir de vous aimer également. Et maintenant, là où vous êtes, au loin ou au tout près, je vous enlace tous et je vous dis oui, oui, je vous embrasse maintenant et je vous dis soyez bénis en et par Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, pour terminer, un ou deux chants d'un lointain passé, si c'est possible, parce que c'était en 1960 que j'ai enregistré cela avec un appareil à bande. Et croyez-moi, ça peut perdre beaucoup de sa netteté. Essayons quand même, essayons.
Soit ta salut. faible plante sur une terre desséchée. Comme un rejeton sans éclat ni beauté, il n'avait rien pour plaire, rien de très attirant. Il était trop simple, pas reconnu des grands.
Il ne brise pas le roseau froissé. Il n'éteint pas la mèche qui brûle encore. Il pense les plaies de l'oiseau blessé. Il ramène le bateau jusqu'au port.
Il a cru que c'est mon père qui l'a porté, que ce sont nos douleurs dont il s'est chargé. Il était frappé pour nous donner la paix, que pour nous sauver, il a été brisé.
Il ne brise pas le roseau coincé, il n'éteint pas la neige qui brûle encore. Il pense les plaies de l'oiseau blessé. Il ramène le bateau jusqu'au port.
Comme une brebis muette chez le boucher, il n'a pas dit un mot, pas un seul cri. L'horreur et l'angoisse profonde l'ont emporté. Il est mort en silence pour nous donner la vie.
Il ne brise pas.